Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
On continue avec Grégory Zawi, l'inventeur, le créateur de l'arnaque, la fraude fiscale à la taxe carbone, l'une des plus grandes arnaques de notre siècle. Dans cet épisode, il nous parle faillite, réussite, millions, beaucoup de millions, des centaines de millions en fait, et prison. Est-ce qu'on est heureux quand on vit du fruit de ces arnaques? Et au fond, qu'est-ce qu'on y gagne? Bonne écoute. Bon, alors, les ennuis commencent quand?
En 96.
96, là, ouais, qu'est-ce qui se passe?
De même pas une semaine de mariage. Ah. Bah, je vais en prison.
Ça s'est vraiment passé comme ça?
Bonne lune de miel, chérie.
Vas-y, attends. Sérieusement, donc, on se marie, c'est super. Avec cette femme donc, qui ne travaille pas.
Bah mais oui, qui... J'ai importé mes jeans là, que je vendais, comme j'ai dit tout à l'heure, à la grande surface. Et, et en fait, le truc, c'est que j'avais un douanier qui était, que je connaissais, enfin, je ne le connaissais pas lui directement, il y avait un intermédiaire, qui était véreux, qui faisait ça pour pas mal de gens. Et au lieu de payer mes droits de douane et ma TVA à l'État français, je l'ai payé à lui. Je lui donnais 5 francs par pantalon, au lieu de payer 40 ou 50 balles à l'État. Et ça me permettait d'être hyper compétitif, de faire participer, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, et je me suis fait attraper.
Alors comment ça se passe? On sonne à ta porte un matin très tôt?
Non, pas du tout. J'avais un camion qui était arrivé des États-Unis, enfin un conteneur qui est arrivé par avion des États-Unis par la Belgique. Le chauffeur s'était fait contrôler, et puis ils m'ont appelé pour venir chercher le camion. J'étais le gérant de la boîte, j'étais là le chercher. Les douaniers ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ils ont mis le camion en filature. Et ils se sont aperçus qu'au lieu d'aller, le camion était, il y avait les plombs de la douane, je devais aller les faire déplomber à la douane et payer les droits et taxes. Ils se sont aperçus que j'allais pas là-bas, que j'allais dans mon entrepôt directement, je faisais sauter les plombs, et que les documents, je les apportais après chez ce fameux douanier véreux, qui me les tamponnait comme si que j'avais payé là, que j'étais passé chez lui. Et ils ont fait une perquisition, ils ont suivi le camion, ils ont trouvé plein de dossiers, et puis voilà. Et je me suis retrouvé en prison.
Et combien de temps, du coup?
Alors là, je suis pas resté longtemps, je suis resté un mois. J'étais à la prison de la santé.
Tu le vis comment? Tu te rappelles?
Bon, c'est dur la prison, c'est pas une partie de plaisir. Mais j'ai envie de vous dire, plus on est jeune et moins c'est difficile en fait. Avec les années, plus on vieillit, plus la prison elle est dure. J'ai eu la chance aussi de me retrouver dans une cellule avec deux anciens qui connaissaient ça par cœur, qui étaient des gens de ma communauté. Et qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai aussi autre chose qui m'a permis de supporter ça, c'est que on est en février, début février 96, et le 31 décembre 95, je perds mon petit cousin qui vivait chez moi, qui avait 16 ans, qui meurt d'un accident de la route, tragiquement, sur la route de Deauville. Et pour moi, ça a été le moment le plus douloureux de toute mon existence, jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et si vous voulez, cette douleur-là, elle m'a permis de relativiser ce qui était en train de m'arriver. Je me dis, bon, je suis en prison, je ne vais pas rester éternellement. Il y a mon petit cousin qui est mort. Enfin, pour moi, c'était une douleur tellement forte que ça m'a vraiment permis de supporter cette douleur.
Et ta femme, ta famille réagissent comment quand tout soudain, tu te retrouves sous les verrous, marqué du sceau de l'illégalité?
Bah, ils me soutiennent complètement. Ils n'avaient pas de problème on n'avait pas de problème d'argent, Dieu merci.
Oui, tes comptes ne sont pas bloqués.
Non, parce qu'à cette époque-là, la justice était très longue, ils ne comprenaient rien. C'est des trucs, ils ont mis vraiment beaucoup de temps avant de légiférer, avant de comprendre. On est même en 96, la loi de blanchiment n'existait pas. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver avec des sacs d'argent en espèces, même... Moi, j'ai connu une époque, cette époque-là, dans les années 90, au Sentier, où ce sont les banques elles-mêmes qui organisaient le blanchiment de l'argent. C'est-à-dire, comment ça fonctionnait? D'ailleurs, c'était même intelligent, parce que tout le monde y gagnait. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le banquier, il vous dit, vous avez besoin de découvert bancaire, vous lui dites oui. T'as besoin de combien ? Il vous dit, vous avez besoin de combien ? Je lui dis, je sais pas, j'ai besoin de 500 000 francs, par exemple. Alors, il dit, écoutez, si vous avez de l'argent en liquide, amenez-moi vos 500 000 francs en espèces. Vous les amenez dans une valise, un sac, il les compte, il les consigne, et en échange, il édite un bon de caisse anonyme qu'il consigne, et grâce à ça, il vous donne un découvert bancaire du montant de ce bon-là, c'est-à-dire de 500 000 francs. Donc ça permet deux choses. D'abord, ça permet que l'argent qui était des bas de laine, en fait, l'argent liquide, soit réinjecté dans l'économie française. Et d'autre part, ça fait tourner les banques, parce que les banques, elles vous prennent des agios sur le découvert bancaire. Donc, tout le monde y gagnait.
Toi, t'as l'impression d'évoluer dans un monde où tout le monde fait des trucs comme ça, en fait. T'as pas l'impression d'avoir un parcours particulièrement spécial, dans la mesure où tu vois, apparemment très jeune, dans ton milieu professionnel ou dans ton milieu tout court, des gens qui font différentes sortes de magouilles, de petits arrangements pour faire plus de pognon ou pour s'arranger avec le fric.
C'est pas des magouilles, ça. C'est un système bancaire, le système bancaire français qui le permettait.
Oui, donc carrément les banques.
Les gens qui sont initiés, qui sont dans le business, ça fonctionnait comme ça. C'était pas pour moi spécialement.
Oui, donc t'as l'impression d'une sorte de normalité. C'est ça que je veux dire.
Tout à l'heure, c'est que moi j'ai toujours été entre les deux eaux. D'avoir du liquide et de le donner à mon banquier pour avoir du découvert, c'était légal. On est dans la partie légale, parce qu'il y a rien de l'interdisait. Et tout, dans la vie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc ce qui était le cas. Et d'un autre côté, je faisais ma TVA que j'encaissais, que je ne reversais pas. Et si vous voulez, où on a les lois de blanchiment fiscal se sont durcies, ont changé, bien, là, moi, je l'ai vécu vraiment, je l'ai vu hein, au quotidien. Ça a été l'après 11 septembre. À l'après 11 septembre, le système bancaire, le système financier, tout a changé.
Et donc, ce n'est pas un traumatisme de se retrouver pendant un mois en taule et tu t'en sors.
Non, à ce moment-là, ça ne l'était pas parce que j'ai eu un incident de dans ma vie qui m'a permis de relativiser. Ça m'a aidé.
Mais donc, tu ressors.
Ouais.
T'as quand même des frais, j'imagine, avocat, amende. Tu t'en sors bien, tu fais que un mois, c'est ça ?
Je fais un mois, oui absolument, je fais un mois, je sors, j'ai pas de problème d'argent, par contre je décide de me ranger de tout ce qui est illégal, de la TVA, tout ça, et je décide de monter un restaurant. Je décide, mes parents me disent oui, il faut te calmer, il faut arrêter les conneries, tout ça, donc je décide d'ouvrir un restaurant, je trouve un local qui est situé au pied des buts de Chaumont, au 81 rue Crimée exactement, 81, donc je trouve ce local qui est tout neuf, qui est en brut de béton. Et avec tous les sous que j'avais mis de côté, je signe le bail.
T'as combien à peu près à ce moment-là ?
Plusieurs millions de francs. On est en 96, j'ai 25 ans, 26 ans.
T'as 25 ans, 26 ans, t'as plusieurs millions de francs.
Ouais.
Tu te dis même pas, tiens, je vais arrêter, ou tiens, je vais... Non, tu as envie de bosser encore et de monter une affaire.
Ben oui, j'ai mes enfants, ma femme qui est enceinte de mon premier enfant. Oui, je suis jeune, oui, j'ai envie d'avoir, de faire d'autres des choses.
Plusieurs millions, ça suffit pas.
Non. C'est pas que ça suffit pas, c'est que j'avais pas de raison de m'arrêter.
Ouais.
Il y avait pas mal de restaurants dans la rue, c'était un restaurant cachère qui fonctionnait. J'avais un concept que je voulais faire assez avant-gardiste, mais là, pour le coup, j'étais trop avant-gardiste. Je crois que c'est pour ça que je me suis pété la gueule. Et,
c'était quoi ?
C'était un concept, on est en 96, c'est un restaurant de poissons, de recettes à base de poissons et de laitage. Parce que dans le cachet, vous savez, vous ne pouvez pas mélanger le lait et la viande. Et c'est c'est le premier restaurant cachère. On a commencé à travailler des poissons crus ou mi-cuits avant l'avènement, la folie des sushis. Et les gens qui venaient manger, bon, ceux qui connaissaient un peu, ils appréciaient énormément. Et puis, ils n'étaient pas très nombreux, donc ça n'a pas suffi. Et pour les autres qui connaissaient rien, ils disaient « Oui, là-bas, ils ne savent pas faire cuire le poisson. » Et quelques années après, ils se sont tous mis à manger. Ces mêmes gens se sont mis, qui avaient cette réflexion, se sont mis à manger des sushis matin, midi et soir.
Tu n'as pas cartonné sur la restauration, donc ?
Au début, oui. parce que c'était nouveau, machin, tout le monde voulait le truc, et après, non. Et quand ça a commencé à chuter, c'est là où j'ai dû retourner à me retrousser les manches, à mouiller le maillot et à refaire de la téléphonie mobile.
Et donc la TVA.
Et donc, non, là, j'étais pas dans l'illégalité, j'ai réussi à être entre les deux eaux, sans voler la TVA. Et c'est là, par contre, où je rencontre Marco Mouli, qui apprend que j'ai mon restaurant qui est en vente. Il m'envoie son frère, il y a la fameuse rencontre. Et Marco, enfin, ils sont très intrigués parce qu'ils sont venus me voir au bureau. Enfin, le frère de Marco, Johnny, je connaissais pas Marco encore. Il est très intrigué parce qu'il m'entend au téléphone raccroché avec un fournisseur où je lui dis ton virement de 3 millions est bien parti. Et il pensait que je parlais en ancien franc. Et quand il a su que je parlais en nouveau franc, c'est-à-dire 300 bars de l'époque, et non 3 bâtons, 30 000 francs, ouais. Là, il a pété les plombs, il m'a dit, écoute, ton restaurant, on va te le racheter, on va te débarrasser des crédits que tu as dessus, je vais appeler mon frère, on va s'associer, puis on va faire du business ensemble.
Il veut faire copain.
Ouais, absolument.
Tout de suite. Ouais, et toi, ouais. Tu sens pas le mauvais plan.
C'est pas un mauvais plan, c'est quelqu'un qui vient, qui va me débarrasser d'un problème, donc moi, ça m'arrange. Et d'autre part, s'il amène des capitaux conséquents qui permettraient de me développer. Donc ça part bien. Et on s'installe, Vendôme, société Vendôme Trading. On prend nos bureaux au 10 Place Vendôme, juste en face le ministère de la Justice. Et au-dessus de la maison Patek Philippe aujourd'hui, elle n'y était pas à l'époque. Et...
Toi, tu te dis que c'est un mec qui veut faire des affaires, qui fait des affaires ?
Ouais, qui fait des affaires, mais je sais qu'il était borderline. Mais à un moment donné... À ce moment-là, je me dis, on va peut-être s'appliquer à comment on appelle ça, une adage que disent les Anglais, « Don't cheat where you live ». Et puis je prends la carte de l'Europe, entre-temps l'Europe, on n'est plus 12, on est 15, il y a la Scandinavie qui est rentrée dans le jeu, et je découvre que le Danemark, ils ont la TVA la plus élevée d'Europe. Quand chez nous, elle était à 19,6, je crois, chez eux, elle est à 25. Donc je me dis, c'est le même boulot. Il faut se creuser un peu plus la tête, autant aller vendre là-bas, et puis on a moins de chances qu'on nous attrape, puisque c'est pas chez nous qu'on va foutre le bordel. Et je commence à vendre au Danemark par des quantités astronomiques de téléphones, avec l'argent de Marco notamment, et le mien, et c'est comme ça qu'on est reparti. Money, money. Je repars à regagner beaucoup d'argent. Je fais quelque chose qui me plaît, que je maîtrise totalement. C'est moi qui suis la locomotive, Marco...
C'est beaucoup de travail.
Oui. Ah oui, mais complètement, oui. Même, on pense parce qu'on fraude que c'est pas du travail. Non, c'est beaucoup de travail. C'est un travail normal, en fait. Hein. Le seul truc, c'est que vous ne reversez pas. Il y a une ligne que vous ne reversez pas. Mais c'est le même boulot.
Et ça te plaît de travailler ?
Ça me plaît. Oui, j'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Bien sûr que ça me plaît. Non, ma motivation, c'est l'acquisition d'objets qui valent cher, ouais, des achats compulsifs, et il me faut de l'argent.
T'as un vrai truc avec les achats compulsifs, hein ?
Ouais, j'en ai eu beaucoup, ouais. Gâter aussi ma femme, mes parents, mes enfants.
T'as l'impression que l'argent te permet d'être plus heureux, à ce moment-là ?
Je pense que oui, ce qui est faux.
T'as combien d'enfants, à ce moment-là ?
En 98, j'ai mon deuxième enfant qui est né. Juste après la Coupe du Monde, le 17 juillet.
Donc vous êtes installé à Paris,
à dans Pantin, un bel... et dans... à Pantin, on déménage quelques temps après à Boulevard Voltaire, oui.
Ouais.
Ouais. Ouais, j'étais... Boulevard Voltaire, par contre, j'avais un grand parking où là, j'avais mis pas mal de voitures que j'avais.
Des voitures très chères.
Oui.
Et donc tout ça te satisfait. Il y a un moment de bonheur,
ouais,
qui est en grande partie dû donc à tout cet argent que tu, ouais, fais en travaillant dur et en fraudant un peu.
Ouais, un peu, c'est ça. Un peu beaucoup, hein. Un peu beaucoup. Hein.
Tu fréquentes toujours pas des gens plus riches à force. Ça reste très communautaire, j'ai l'impression, tes relations.
À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Puis je commence à fréquenter aussi certaines personnes dans le milieu artistique. Le milieu de la télé, pour être plus précis. Et c'est là où je dérape un peu dans ma vie privée, un peu beaucoup même, et qui va enclencher mon divorce. Parce que si vous voulez, après l'argent, je voulais la lumière.
La célébrité.
Bien sûr. Voilà. Mais c'est ça le moteur.
Pas la célébrité. Je me dis que voilà, je suis pas comédien. Je suis pas. J'ai décidé. J'aurais préféré être comédien d'ailleurs. Je suis pas acteur, mais de m'approcher des gens qui eux ont la lumière pour prendre un bout de leur lumière. Et je l'ai fait.
Ah, t'es tombé amoureux de quelqu'un de la télé.
Ouais.
Donc finalement, ça a changé ta sociologie, en fait, et ton environnement. Sans tout l'argent, t'aurais peut-être pas pu...
Attention, je suis pas tombé amoureux juste parce qu'elle était de la télé. Je suis tombé parce que dans ma vie de couple, ça n'allait pas du tout. Il y avait un manque. Il s'est avéré que c'est tombé sur une personne connue, et ça n'a fait que renforcer ma relation avec elle. Ouais.
Donc là, ça y est, on commence à avoir pas mal de choses. Des paillettes, de l'argent,
ouais.
Un business, une famille bon, qui vacille, mais en tout cas qui existe, avec des enfants, etc. Là, t'es pas mal, en fait. Hein.
Bah là, ouais, je commence à me dire... Même je me posais cette question, je me dis, mais jusqu'où ça va aller? Parce que c'est vrai que ce que vient de me dire, je me le disais à ce moment-là. Absolument.
Et après quoi?
L'argent qui rentre, ouais. Une femme bon, avec qui ça va pas très très bien, et puis... il faut l'appeler un chat, une maîtresse.
Avec qui ça a l'air d'aller pas mal.
Voilà. Je commence à fréquenter des gens sympas, des gens de la lumière. Tout va bien, mais jusqu'où, quand ça va s'arrêter?
Tu mets de côté?
Mais vous savez, à ce moment-là, quand on n'a pas de vice, comme j'en avais pas, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas joueur, quand vous ne vous droguez pas, quand vous n'avez pas des excès... Comme il disait Marcel Dassault, vous pouvez pas manger deux poulets. Donc forcément, même en vivant bien,
t'as trop de fric en fait.
En vivant bien, vous avez beau, combien il en reste quoi. Il y a même besoin de mettre de côté, ça se fait automatiquement. Vous les entassez, j'ai envie de vous dire. Ils s'entassent par automatisme.
Et tu te dis pas peut-être je réduis la voilure justement pour pas prendre de risques, puisque t'as tellement de poulets, t'as tellement d'argent.
C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Seulement, il est trop tard. C'est que l'affaire de Marco que j'ai fait avec lui. Avec le Danemark me rattrape. Mais là, à ce moment-là, mes affaires, elles sont... Je gagne un peu moins d'argent parce que je suis un peu moins dans l'illégalité dans mon fonctionnement.
C'était quoi les sommes que tu maniais quand tu disais je gagne un peu moins d'argent? Par mois, je sais pas, par...
C'était pas loin du million d'euros, mensuellement.
Mensuellement?
Ah oui. Oui. Ah ok.
On a toutes les deux fait.
Ouais. Ah ouais. Donc 1 million mensuel, ouais.
Mensuellement, ouais, ce que j'arrivais à amasser, ouais.
Ça fait beaucoup de poulets, effectivement.
Mais là, t'investis pas à bloc pour acheter des apparts?
Si, bien sûr, investissement immobilier en tout genre.
Et ça, il t'en reste rien?
J'en ai perdu pas mal, ça m'a coûté très cher tout ça. Donc si vous voulez, j'ai gagné à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent, c'était moins que le carbone, mais ça a été beaucoup plus long dans le temps. Et surtout avec le rapport qualité-prix-prison, beaucoup moins important non plus. Parce que j'ai pas été inquiété tant que ça. Et puis, je faisais pas les choses non plus dans l'illégalité. Mais à ce moment-là, c'était une période où c'était bien, ouais.
Via Marco, via d'autres gens, tu te mets pas à fréquenter d'autres gens, malgré tout, qui ont des parcours plus entachés de criminalité ou d'arnaque?
C'est là où je fais mes affaires immobilières, absolument, ouais. Si, ça se passe bien, je passe bien, les gens m'aiment bien, je ressens pas un voyou. Je m'exprime pas trop mal. Donc
t'as l'impression que les voyous, comme tu dis, ont une façon différente de gérer l'argent, ou dans leur rapport est différent?
C'est pas qu'ils ont une façon différente, c'est la mentalité qu'ils ont, que j'ai pu observer aussi bien en prison qu'à l'extérieur, parce que j'étais malheureusement approché par des voyous. Ils ont un point commun. En fait, ils sont très similaires avec les flics. Je ne parle pas des policiers que vous voyez dans la rue qui vous arrêtent pour ma DPV, je parle des gros officiers de police judiciaire dans les grandes brigades. En fait, si vous voulez, ils fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire quand vous êtes pas en affaires, mais parce qu'ils vous l'imposent en fait, ils vous imposent ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont exactement à ce niveau-là le même fonctionnement que les policiers, parce que quand vous êtes en garde à vue, le but du policier... Comme ils disent, oui, c'est de faire sortir la vérité. Non, c'est de vous faire dire sur PV ce qu'ils ont envie d'entendre, de coucher sur PV, comme ils disent, c'est le jargon qu'ils emploient, pour pouvoir vous coller un maximum, pour faire une affaire pour eux, et pour pouvoir vous coller au tribunal le maximum, quoi.
Et les voyous?
Les voyous pour vous prendre le maximum d'argent. Voilà. Il y en a, c'est en année de prison, et les autres, c'est en pognon.
On a déjà essayé de t'arnaquer ?
Oui, de m'arnaquer, de faire de l'extorsion de fonds, bien sûr.
De l'extorsion, ah ouais.
Oui, encore récemment, j'ai dû déposer des plaintes et tout, bien sûr, complètement. Ouais.
Il y a, sur le côté, on essaie de t'arnaquer ou on essaie de te la faire à l'envers. T'es plutôt bon pour comprendre en amont ce qui se passe. T'es bon en lecture.
Oui, quand même, ouais. Quand même, mais il faut pas le montrer, voyez. Il faut les laisser, faut laisser faire, comme la police quand vous êtes en garde à vue. Il faut essayer de lire dans le jeu.
Tu t'es jamais fait voler ?
Si, bien sûr. Si, on m'a volé. J'ai perdu des sommes. Mais moi, je me suis fait avoir. C'est toujours par le cœur. C'est-à-dire quand des gens, ils m'ont eu au sentiment, en fait. C'est pas par. J'ai pas fait des fautes ou des mauvais investissements sur le. Où ça a été mal réfléchi. Ça a été vraiment parce que la personne, ça a été devenu mon ami ou des choses comme ça, vous voyez. C'était vraiment par.
Ah, c'est trahison en plus.
Voilà, c'est trahison, ouais. Comme avec les femmes aussi, pareil.
Alors, donc, tu te retrouves à nouveau en tôle.
Je me retrouve en tôle en 2004.
Pour le Danemark.
Pour le Danemark, exactement. Vous suivez bien. Hein.
Bah, quand même, pas très compliqué. Ouais. Là, mais
donc, pendant un mois et demi, je prends 3 ans ferme.
Donc, quand même, là, ça devient un peu plus.
Là, ça commence à monter, ouais.
T'as un casier, là.
Ouais. Je commence à avoir un casier. Bon, il y a eu l'affaire de la corruption douanière qui s'est pas trop mal finie. Et là, je prends 3 ans ferme avec un mandat d'arrêt. Je m'en trouve en prison. Je fais appel.
Ça t'inquiète ? Comment tu le vis ? T'as l'impression que tout s'écroule ou pareil ?
Là, quand vous entendez 3 ans, ça commence à peser. Hein. 3 ans, c'est long. Hein.
Puis tes enfants, ils commencent à être grands.
Les enfants sont... ils sont nés en 96, et 98 et 2001. C'est des enfants en bas âge. Donc je fais appel, je fais une demande de mise en liberté, je sors au bout d'un mois et demi.
Donc clairement, t'as peur quand même, il y a un moment.
Oui, ouais. Je sors, j'attends mon procès en appel. Et c'est là où, pendant cette période-là, d'un mois et demi, je rencontre une personne qui me met un peu sur le marché de l'écologie, qui est un marché d'avenir.
Et donc c'est pendant que t'es en train de trouiller, de prendre 3 ans ferme.
Oui, donc pour la téléphonie mobile des affaires de 98.
Que tu, en fait, que tu fomentes, que tu commences à mettre en place dans ta tête éventuellement.
Je me réemploie
les possibilités.
J'ai quelqu'un dans ma cellule, je suis enfermé dans une cellule qui fait 9 mètres carrés. On est deux. Et c'est un type toute la journée qui me parle de l'écologie.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Il me parle de l'écologie. Je sais pas si vous avez vu le film Forrest Gump. Vous savez, la scène où. Où Booba, il parle à Forrest Gump pendant des jours, des heures de la crevette. C'est-à-dire, ce type-là, pour moi, il a été à l'écologie, ce que Booba était à la crevette pour Forrest Gump. Vous voyez ? Donc l'écologie comme si, les panneaux solaires, les pompes à chaleur, le ceci, le cela. Donc, je ressors au bout d'un mois et demi avec mal à la tête et je commence à m'intéresser à ce marché.
Juste un truc, la prison, d'après ce que je comprends, toi, t'aimes beaucoup, comme tu dis, certaines formes de luxe. Tu parles de bien-être, tu parles d'esthétique.
J'ai eu mon luxe en prison, ouais. je me suis payé du luxe en prison.
C'est possible ça ? Tu peux combiner les deux ?
Moi, je me suis démerdé pour avoir mes macarons de chez Pierre Hermé, mes chocolats Patrick Roger, du foie gras quand je pouvais en avoir.
C'est compliqué d'obtenir ce genre de produit ou ce genre de luxe quand on est à l'intérieur ?
C'est pas facile.
Tu peux pas juste acheter des trucs et on te les envoie ? Ça marche pas comme ça.
Non.
Il faut passer par des intermédiaires. C'est quoi, c'est interdit
c'est
en fait d'avoir
facile,
des.
C'est pas facile. C'est laborieux. C'est compliqué. Mais on a réussi.
Et l'économie, la façon dont ça marche, l'argent en prison, c'est très différent du monde libre.
Bah vous recevez des mandats. Maintenant, c'est des virements. C'est pareil pour les raisons de blanchiment. À l'époque, j'ai connu moi l'époque des mandats. C'est passé en virement bancaire aujourd'hui. À partir du moment où vous recevez de l'argent, vous pouvez, quand vous avez une espèce de liste, de catalogue, et vous pouvez cantiner des produits, et c'est prélevé directement sur.
Mais c'est des produits limités, il n'y a pas les chocolats.
Non, ça rentre autrement. Ouais.
Donc il y a des trafics, il faut trouver des astuces.
Des trafics ou pas, non, parce qu'il y a aussi, par le biais de l'aumônerie, vous avez le droit aussi à. Il y a une certaine tolérance. C'est des lois, hein, c'est légal, hein, y a rien de, ça passe de toute façon, tout ce qui rentrait de cette manière-là, ça passait les rayons X et tout, c'était pas rentré sous le manteau comme les téléphones mobiles par exemple, en prison.
Toi t'arrives dans prison, on sait que t'as du fric, non ? Ça se sait vite.
Oui.
Il y a pas un temps.
On le sait surtout quand je rentre en 2009, parce que j'ai fait la une du Parisien et tout. Ouais.
Et dans ces cas-là, il n'y a pas des gens qui, éventuellement, en prison, essayent justement de te faire de l'extorsion de fonds, de te piquer ton pognon, de te faire payer?
Si, il y a ça. Et c'est là où il faut être très habile et naviguer entre les gouttes. C'est-à-dire ne prendre personne de haut, parler à tout le monde, mais pas trop en dire non plus. C'est vraiment un jeu d'équilibriste.
Ça doit être fatigant, non ?
Oui. Vous êtes en alerte en permanence. Entre ce problème-là que vous venez d'évoquer, le problème du fait que j'avais un téléphone mobile dans ma cellule, donc vous avez géré aussi la relation avec les surveillants pénitentiaires, oui. Donc c'est tout un jeu d'équilibriste qui est très très fatigant.
Et c'est pourquoi je vous dis,
avec les détenus, c'est d'arriver aussi à instaurer une relation amicale, de les aider tant que vous pouvez le faire sans que ça devienne du racket, pour que ça soit votre copain, pour éviter qu'ils aient envie de passer à la vitesse supérieure. C'est tout un art de diplomatie qu'il faut gérer. Ouais. Les aider, par exemple, quand vous les aidez dans une procédure judiciaire, alors là, ils sont comme des fous, parce que c'est des mois, voire des années de prison en moins que vous pouvez leur faire économiser. Et ça, ils vous en sont super reconnaissants.
Tu t'es fait des amis en prison ?
Ouais.
Des amis, hein ?
Ouais, mais non, j'en ai deux, trois, ouais. Là, ouais, c'était un ou deux, peut-être, ouais. Surtout la ouais, j'en ai ouais. Quelques amis. Hein.
Des gens qui étaient pour les mêmes raisons que toi ?
Non.
Ou des raisons comparables ?
Non. La finalité, c'était l'argent. Parce que c'est toujours pareil. Maintenant, ils y sont arrivés d'une autre manière, par d'autres moyens, mais c'était des gens pour l'argent. C'est pas des histoires de mœurs, non.
Ouais, voilà, c'est pas des histoires de mœurs, c'est pas des histoires de meurtre, c'est pas des.
Non. Ni violence. Ouais, mais non, bah écoutez, l'arnaque, comment elle se met en place ? Comme je vous ai dit, c'est le même principe que les téléphones mobiles. Donc je découvre ça en faisant les salons de l'écologie. Je découvre le marché des quotas carbone, qui va y avoir une bourse, qui va y avoir des changes de quotas. Enfin, il y a tout le mécanisme que je vais très bien expliquer sur scène bientôt.
Et t'es encore riche à l'époque ?
À ce moment-là, je gagne plus d'argent parce que je suis à l'arrêt. J'ai des biens immobiliers, mais j'ai plus de rentrée d'argent comme avant. Je fais plus de téléphone, ou très peu.
T'as envie de te refaire après le coup d'arrêt, non ?
Non, c'est pas ça. J'ai envie de gagner ma vie. Je cherche pas forcément la fortune, mais quand je découvre ce marché du carbone, je découvre qu'au niveau du mécanisme, de son mécanisme-là de la TVA, il y a tous les avantages sans les inconvénients du carrousel de TVA sur des biens, sur un bien immatériel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de stockage, il n'y a plus de problème de transport, il n'y a plus de problème de paiement, puisque le vendeur et l'acheteur, c'est la Caisse des dépôts et consignations, on est sûr d'être payé, on est sûr d'être livré. Le stockage des quotas carbone, il se fait sur un compte-registre numérique comme un compte bancaire, c'est-à-dire vous connectez avec un login password. Donc je me dis, j'ai trouvé un peu le mouton à cinq pattes. Et donc je me fourvoie là-dedans, avec d'abord une période de démarrage qui est très lente, la période zéro, qui se termine... au printemps 2008, où le marché est à zéro, ça vaut rien du tout, et il fallait attendre la période explosive de démarrage qui démarre au printemps 2008, et c'est là où c'est le feu. Ouais.
Tu commences tout seul ?
Oui.
Tout seul ?
Je commence tout seul, premier test dans ma société qui s'appelait Marceau Trade, au 9 avenue Marceau. 9 avenue Marceau, oui.
Et
Paris 16e.
Et t'en parles à des gens ?
Oui, j'en parle à deux personnes. Et pareil, ces deux personnes à qui j'en parle, c'est pour des raisons de cœur. C'est pas pour fanfaronner ou quoi que ce soit. C'était des gens qui, dans ma vie, à un moment donné, le premier m'a rendu un service énorme. Le second, c'était mon cousin qui était le frère de celui qui est décédé, dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Et c'est eux qui, par contre, vont divulguer le truc partout. Jusqu'à que ça arrive un jour aux oreilles de Marco.
Ah, c'est eux qui en parlent.
Ouais, c'est eux.
D'accord. Tu leur avais pas dit de pas en parler ?
Si, mais ils ont voulu faire les malins et ils ont gagné de l'argent, attention. Hein. Je pense pas qu'ils le regrettent parce qu'ils ont gagné beaucoup de sous quand ils l'ont découvert. Mais par contre, ils ont pas été. J'ai été doublé par eux et c'est eux qui ont divulgué le truc.
Et si t'avais pas parlé ? Si t'avais pas parlé à.
Bah, on n'en sait rien et si, j'en aurais peut-être parlé à d'autres. Ou peut-être d'autres gens auraient découvert le truc par une autre source. On n'en sait rien, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça.
Tu t'en es mordu les doigts ?
Oui. la trahison, surtout pas pour le fait de l'argent qu'ils aient gagné des sous, tant mieux pour eux. Et, mais ça, pas, ça a été fait, ils n'ont pas été fair, ils n'ont pas été élégants, c'est pas...
Mais comment ça, ils ont gagné des sous? C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose que toi?
Oui, une fois qu'ils ont compris, oui, après...
Ah oui, d'accord. Donc non seulement ils ont divulgué, mais en plus ils ont copié.
Et voilà, on devait être associé à la base et ils sont partis le faire tout seul ou avec d'autres personnes. Voilà comment ça s'est fait.
C'est plus dur la trahison quand il y a de l'argent qui est mêlé? Ou la trahison pour de l'argent?
Je crois que le plus dur, c'est d'être trahi par une femme que vous aimez.
Pourquoi? C'est quoi cette histoire?
Là, on parle pas d'argent. Là,
ouais.
je parle de
sentiments. En termes de trahison, tu penses que c'est plus dur
pour avoir vécu les deux?
Ouais.
Là où c'est plus dur, ouais, c'est une femme qui vous trahit. Ouais.
Plus qu'un copain qui te lâche pour du pognon.
Bah, parce que l'argent, ça se refait. Vous voyez, une femme avec qui vous avez eu des enfants, tout ça, c'est compliqué de retrouver. Une cellule familiale qui est détruite, qui est brisée, c'est dur à reconstruire. On est des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. L'argent, ça se refait.
Et parce que ton ex-femme t'a trahi?
Oui.
Le fait que tu aies des ennuis judiciaires, ça a pu aussi occurer des gens qui t'ont lâché, des gens que t'aimais qui t'ont lâché ou qui t'ont tourné le dos?
Oui, pour certains, ça a aussi servi de prétexte. Comme mon épouse, ça a été un prétexte de dire oui, la prison, ça, j'en avais un peu marre. Enfin, les problèmes de justice, mais dans la vie, vous savez, quand on prend un chien, on le prend avec ses puces. Hein. Elle savait qu'elle n'avait pas épousé un chirurgien.
Ta femme, par exemple, elle sait au moment où tu fais...
Complètement.
Ouais.
Complètement, vous savez, on prend le bon, on prend le con. Hein. C'est comme ça, la vie. Hein.
Ouais. Donc, tu ne te caches pas, auprès de tes proches, en tout cas, à ce moment-là, parce que là, les sommes deviennent astronomiques, que les sommes astronomiques que tu engranges, elles ne sont
pas... Je crois que tout le monde oublie après. Au bout d'un moment, je crois que tout le monde oublie. On est pris dans une vague, dans un tourbillon, où tout le monde oublie, quoi, parce qu'on part en vacances tout le temps, on part en voyage en première classe, on pense même plus comment ça vient, quoi. On voit que tout est clean. Moi, j'avais mes bureaux au 138 rue Faubourg-Saint-Honoré, juste en face la maison d'Aloyau. J'avais quasiment vendu ma société, 30% de ma boîte, à un animateur télé très connu de TF1. À ce moment-là, c'est-à-dire tout va bien. Voyez. Et pareil, je m'appliquais ma fameuse règle, une partie de l'égalité, une partie tordue. Et tout se passait très très bien.
C'est important quand même ce que tu dis, t'oublies en fait, de par le rythme.
Eux, ils oublient, mais moi, j'oublie rien. Moi je me réveillais le matin, j'étais pas bien. Je me réveillais d'ailleurs tous les jours avant 6h du matin, par réflexe, parce que bon, c'est l'heure où la police vient, en général, et ils ont fini par venir au mois de décembre 2009. Moi, je sais que tout ce que je fais, je connais la vérité, je connais le fond. Je sais qu'un jour, ça va s'arrêter, seulement je ne sais pas quand et comment.
Ah, tu te dis carrément, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas passer entre les gouttes.
Non, je sais que ça s'arrête, je ne sais pas quand et comment. Mais d'un autre côté, j'ai cette fameuse espoir d'évaluation me disant que, comme c'est la Caisse des dépôts qui me paye, ils vont, c'est trop gros, quoi. Ça passera, on va pouvoir se défendre là-dessus. Et je me plante complètement. Complètement, il n'y a aucun magistrat qui a voulu aller sur ce terrain, parce que l'État n'attaque pas l'État. Vous savez, quand j'ai passé des heures dans les cabinets des juges d'instruction, et quand j'expliquais minutieusement, parce que le marché de ce qui s'est passé, la manière technique dont ça s'est passé, qu'ils l'ont compris totalement, on est peut-être à peine entre 5 et maximum 10 personnes en France, ou même au-delà de la France, à l'avoir compris exactement et savoir à quel niveau et à quel point l'État, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, elle a merdé. Et quand je détaillais, quand j'expliquais aux magistrats instructeurs, les flics, ils avaient compris, ils m'avaient donné raison. Enfin, ils ne m'avaient pas donné raison, ils m'avaient dit, on sait qu'ils ont merdé, mais voilà.
La loi, c'est la loi.
La loi, c'est la loi, et l'État français ne va pas attaquer la Caisse des dépôts, c'est comme ça. Mais quand j'expliquais aux magistrats instructeurs, je leur donnais les détails où ils ne pouvaient pas nier ce qui se passait.
Tu trouves ça injuste?
Oui, parce que on est dans un système là, en l'occurrence pour le carbone, pour ce qui s'est passé dans cette fraude la plus grande de tous les temps, on est dans un système où la moralité n'existe plus. On doit sauver, c'est la raison d'État qui prime. C'est-à-dire que l'État a merdé par l'intermédiaire de sa banque, là, le CDC, mais quoi qu'il arrive, on doit la sauver.
J'ai l'impression que ce que tu trouves injuste, c'est que tu avais calculé ton risque prison.
Qualité prix, ouais.
Qualité prix. qu'un rapport qualité-prix prison, que tu l'avais calculé selon une équation avec ce qui existe, comment la loi fonctionne, qu'est-ce que tu fais dedans, comment tu joues avec, ce que tu risques, et que tu as l'impression de t'être fait avoir par rapport à cette équation.
Ah mais complètement. C'est pas... Non, je ne me suis pas fait avoir. Moi, j'ai fait plus de détention qu'un chanteur très célèbre qui a enlevé la vie de sa compagne, qui l'a tué à coups de poing. D'accord ? Il a fait, je crois, 3 ans de prison, j'en ai fait presque 5. Après, je ne sais pas où vous placez la valeur de la vie humaine, puisque moi, je me souviens, quand je suis sorti de garde à vue, les policiers m'ont dit, où j'allais en prison, en 2009, ils m'ont dit, monsieur Zaoui, de toute façon, vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Ben voilà, ben, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, mais moi, j'ai fait plus de prison que certains individus qui ont tué des êtres humains.
Ça dit, il t'a coûté cher l'argent pour d'autres raisons, parce que tu dis quand même que tu te réveillais à 6h du mat, avant 6h du mat.
C'était un réflexe.
Ouais. Mais avec une...
Une appréhension.
Ouais, une appréhension, une sorte d'angoisse.
Ouais.
Et ça veut dire que quand même, c'est pas gratos. Enfin, il y a un truc où ça te...
Mais je suis conscient, j'étais pas débile. Enfin,
ouais, 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 mais ça t'inquiète. C'est-à-dire que tu vis à la fois le présent très fort avec tes achats compulsifs, ta vie de luxe, ton train de vie avec ta famille, etc. Et en même temps, tu dors comme ça, quoi. Tu sais que le coup près, il est là et que ça va tomber.
À cette époque, je disais toujours, je me réveille moi tous les matins avec un sac à dos qui est très lourd. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac à dos ? C'est mon secret que je gardais pour moi et l'argent que j'engrangeais, que je redistribuais pour mettre tous mes proches dans le bien-être. Je disais toujours, tous les matins, je m'avais avec un sac à dos qui est très lourd. Et aujourd'hui, ce sac à dos...
Donc il y avait une dimension de kiff autant qu'une dimension d'inquiétude, il y avait les deux.
Ouais. Mais c'est un engrenage, je ne pouvais plus faire marche arrière. Bah, c'était fini, on avait démarré, la machine était emballée, c'était fini. Mais je pensais pas, moi, mon erreur, je vous le redis encore, mon erreur, ça a été l'évaluation de la réaction qu'elle a avant l'État. J'étais quand même condamné, moi, à 12 ans de prison. C'est-à-dire, j'ai pris une peine à 2 chiffres qui a été confusionnée à 8, et sur les 8 ans, j'en ai fait pratiquement 5. Vous voyez, c'est quasiment pour la France... C'est une peine de criminel que j'ai pris.
Ta situation légale, aujourd'hui, c'est quoi ?
Y a pas, quand on dit légal, on dirait qu'il y en a une illégale également.
Ouais.
Il n'y a pas de situation illégale, ouais. Y a une situation tout court. Qui est-ce qu'elle est ? Je suis sorti de prison sous bracelet électronique le 3 août 2020. On nous a tombé dessus la production des Rois de l'Arnaque. On nous a dit voilà, on va commencer le tournage en septembre. Et si vous participez pas, de toutes les manières, on va le faire sans vous.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune. C'est terminé, ou presque. Si vous vous demandez quelle est la situation financière, mais pas seulement, de ce roi de l'arnaque, il reste un troisième épisode, lui aussi réalisé par Laurence Velli et Anna Borel, lui aussi post-produit par Frédéric Fortuny, toujours sur une musique d'Emma Bitson. Alors, bonne écoute de l'épisode suivant. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.